Je vais vous parler d'un thème effectivement grave, urgent, essentiel, mais je ne vous en parlerai pas comme un scientifique, je ne suis pas du tout un scientifique, juste un journaliste, et de surcroît un journaliste à la retraite. Et on dit souvent que les scientifiques savent tout sur rien, c'est-à-dire un tout petit domaine, et les journalistes rien sur à peu près tout. Voilà. Alors pour situer mon propos, je n'ai pas des capacités spéciales pour vous parler d'écologie, et je ne suis pas conférencier non plus, je ne suis pas ici pour vous distraire, ni pour vous instruire. Bon, je n'ai donc aucun titre particulier à vous parler de ce sujet-là. Je mène une vie relativement simple par rapport au contexte genevois, mais pas toujours cohérente non plus, je ne suis pas un témoin. Mais simplement, puisqu'on me l'a demandé, je vais partager avec vous plus qu'une inquiétude que vous ressentez sans doute, sans la laisser peut-être toujours affleurer à la conscience, et aussi une conviction. Conviction que vous partagerez ou non, ou partiellement. Cette conviction, c'est qu'il faut d'urgence ouvrir les yeux, faire face, au lieu d'enfouir nos têtes dans le sable. J'aime la création, et aujourd'hui, tout particulièrement, c'est le printemps, et cette création est belle. Elle nous offre énormément d'occasions d'émerveillement pour le tout petit et l'immensité. C'est un trésor extraordinaire, un don extraordinaire. Or, il y a déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années, en voyageant dans le tiers-monde, dans ce qu'on appelait le tiers-monde à cette époque-là, je rencontrais des paysans. Et les paysans, déjà à l'époque, me disait le climat change. Les pluies ne viennent pas comme elles venaient, il y a plus de sécheresse. C'était déjà un temps où on se ressentait, les personnes qui étaient les plus concernées, les paysans, ressentaient des changements. L'an dernier, je suis allé en vacances en Valais et puis je suis allé voir des glaciers. Et on s'aperçoit vite le recul dramatique des glaciers, la fonte des glaciers. Donc j'ai cette inquiétude que la création soit abîmée, qu'elle soit moins propice à la vie et que elle risque, les conditions de vie risquent d'être un peu difficiles pour mes 11 petits-enfants et pour leurs descendants. Elle est déjà difficile, la vie est déjà affectée pour des populations frappées par des sécheresses, des inondations, la montée des eaux des océans. Alors, il s'agit, pour moi, j'ai essayé, j'essaie, à travers un certain nombre de publications et avec la COTMEC, l'association COTMEC, qui a perdu son mandat, mais qui continue tout de même. Et cette COTMEC a été créée pour les relations nord-sud entre le tiers-monde et nous. Mais aujourd'hui, le nord est dans le sud, le sud est dans le nord, et nous sommes tous embarqués sur la même planète et sur l'unique planète. Alors, avec la COTMEC, nous avons publié ce livre, Trop riche, trop pauvre, où j'ai écrit un chapitre sur ces questions-là en particulier. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés aussi. Et puis, quelques temps après, très peu de temps après la publication Trop riche, trop pauvre, est sortie l'encyclique du pape François, Laudato si. J'espère que quelques-uns d'entre vous en ont pris connaissance. C'est un texte fondamental, essentiel, et je vais m'y référer passablement. Et d'une certaine manière, on a eu l'impression à la Côte-Mec qui illustrait aussi ce qu'on dit dans ce livre « Trop riche, trop pauvre ». Alors, après la suppression du mandat de la Côte-Mec par l'Église, donc quelques-uns d'entre nous avons voulu continuer sur ce thème que nous avions déjà abordé, ce thème de l'écologie, et nous avons voulu continuer parce que nous avons un sentiment d'urgence, un sentiment que c'est vraiment, j'ai écrit un article, la mère de toutes les batailles, c'est-à-dire que tout va être conditionné par l'état de la planète, que ce soit le travail, que ce soit la nourriture, etc. Il y a des bouleversements qui sont déjà en route, mais qui vont être encore plus en route. Ceux qui travaillent dans les stations de montagne de moyenne altitude et même plus haut s'en rendent déjà compte. Hein, la diminution des chutes de neige, le recul des glaciers, etc., ça a un impact. Mais cet impact va être généralisé. Alors, ça existe dans certaines régions plus sensibles, mais aussi ici, personne ne va échapper à cela. Et nous sommes tous dans ce petit groupe de la Côte-Mec, nous sommes tous nés pendant la guerre, ou un peu avant, ou un petit peu après. Et nous avons fait une rencontre, et puis nous sommes demandés qu'est-ce qui caractérise notre rapport à la création, qu'est-ce qui le caractérisait quand nous étions jeunes, quand nous étions enfants, quand nous étions jeunes. Et bon, j'ai l'impression que dans cette salle, il y a deux, trois personnes qui sont nées aussi, comme nous, avant-guerre ou pendant la guerre. Alors je vais vous leur demander de dire ça en un mot. Qu'est-ce qui, pour vous, caractérise sur le plan du rapport à la création, à la nature, cette époque de notre jeunesse et de notre enfance? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Un mot simplement, un mot qui caractérise.
Rapidité de l'évolution.
Évolution.
Rapidité
d'évolution. Oui. D'autres.
Quand on était petit, on croyait que c'était immuable.
Immuable. D'autres?
Je me promenais à Suzan.
Oui.
J'étais arrivé là-haut sur le glacier et il y avait deux étudiants qui mesuraient la fonte des glaciers.
Déjà.
À 46.
Oui.
Je me rappelle très bien de ça.
Oui. D'autres qui. Un mot simplement. C'est pas assez. Votre rapport à la nature, à la création, quand vous étiez enfant ou encore très jeune.
Émerveillement.
Par émerveillement. Alors je vais vous dire maintenant, dans notre petit groupe, quel est le mot qui était comme ça, sur une feuille de ce type-là, en tête. Voilà. Vous arriverez tous à lire épluchure. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais enfant, et quand d'autres aussi de ce groupe étaient enfants, jeunes, nous récoltions les épluchures de pommes de terre, de carottes, ou d'autres légumes. On les mettait dans un panier. Et puis, quand le panier était plein, on l'apportait chez un paysan voisin qui en nourrissait ses cochons. Et on était plusieurs à faire cela. Et ça m'a impressionné parce que ça signifiait qu'il y avait à cette époque une tradition de non-gaspillage. On évitait de gaspiller jusqu'aux épluchures. Et récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les murs, sur les affiches, il y avait des affiches qui disaient, une affiche qui faisait parler une croûte de pizza, Et cette croûte de pizza disait « Je suis une ordure, mais je suis récupérable. » Une autre affiche, c'était une pelure de banane. « On ne donne pas chair de ma peau, grave erreur. » Et cette campagne humoristique, qui était très réussie, avait pour but de nous faire récupérer justement les déchets organiques pour en faire du compost. Donc, en fait, on nous apprenait d'une certaine manière à faire ce que nous avions, nous, appris dans notre enfance. C'était exactement pareil, ne pas gâcher, ne pas perdre toutes les ressources que l'on a. Et dans mon souvenir à cette époque-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à cette époque-là, nous avions le nécessaire. Je me souviens, on avait à manger, même s'il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 48. On s'habillait, même si ce n'était pas la qualité d'avant-guerre, comme on disait à cette époque. On se logeait, même si l'appartement n'était pas tout confort. Chez moi, il n'y avait pas de chauffage central, pas de salle de bain, pas de réfrigérateur, etc. On se déplaçait. Même si le vélo de mon papa, qui était maçon, qui allait sur les chantiers, coûtait à peu près un demi-salaire mensuel, on s'informait. Il y avait 5 quotidiens imprimés à Genève à l'époque. Et puis, il y avait la radio. Quand j'ai eu vers 12 ans, dans ma famille, la radio est entrée. C'était assez tard, mais ça coûtait à peu près un demi-salaire aussi, comme une bicyclette. Et je viens d'acheter il y a peu un poste de radio à la Miro, il m'a coûté un petit peu moins de 20 francs. Voilà la différence. Ce n'était pas le bon vieux temps pour autant. Le travail était certainement plus pénible qu'aujourd'hui. La médecine moins avancée. L'espérance de vie à la naissance en 1960 était de 71 ans. Aujourd'hui, elle est de 82 ans. L'air était déjà pollué par le chauffage au charbon, au bois. Il y avait du plomb dans l'essence. Mais à cette époque, une caractéristique importante, nous, enfants, on pouvait jouer dehors sans problème. Aujourd'hui, beaucoup moins d'enfants peuvent jouer dehors et c'est grave pour leur développement. Parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a des dangers, etc. On ne parlait pas de stress, ni de burn-out, contrairement à aujourd'hui, et on vivait. On n'était pas plus malheureux qu'aujourd'hui. Les enfants, les jeunes espéraient une situation meilleure que celle de leurs parents. Il y avait un certain progrès dans la vie quotidienne. Les salaires augmentaient et il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas de chômage, au contraire, on faisait venir des travailleurs saisonniers d'Italie, ensuite d'Espagne, etc., sans leur famille, parce qu'on n'était pas très ouvert, pas très généreux, mais on avait beaucoup de travailleurs étrangers. Alors, depuis cette époque, on a vécu un bouleversement. À partir de la fin des années 50, une explosion démographique. On était 3 milliards sur la Terre en 1960, 4 milliards en 1975, et aujourd'hui, 7 milliards et demi. Donc, on a plus de doublé la population mondiale, grâce à la baisse de la mortalité infantile et aussi aux naissances. Alors, il s'agit de se souvenir de cela dans ce qu'on va dire maintenant. Je reviens à mes épluchures. Il a fallu, on ne s'en rend pas compte, un très gros effort de publicité, de marketing pour éradiquer cette culture du non-gaspillage. Et on y a réussi. Par exemple, le gaspillage de nourriture. On dit, selon la FAO, qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde n'est pas consommée, soit deux fois plus qu'en 1974. Donc un tiers de la nourriture est perdue dans les poubelles, est perdue dans les supermarchés, est perdue à la production aussi, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour transporter la nourriture jusqu'au consommateur, etc. Il y a un article ici qui dit « Gaspillage alimentaire, la Suisse généreuse avec ses poubelles ». C'est un article récent qui est paru dans Le Temps. 2,3 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en Suisse. Les ménages sont responsables de la moitié du gâchis. Donc un gaspillage considérable. Gaspillage aussi d'énergie. On utilise beaucoup plus d'énergie, notamment avec l'air conditionné, en transportant des marchandises, par exemple des fleurs. J'ai vu en Équateur énormément de serres sous lesquelles poussaient des fleurs qui viennent jusqu'ici. Les haricots du Maroc, qu'on voit maintenant dans nos supermarchés. Les vêtements qui viennent presque tous de Chine ou du Bangladesh, du Vietnam. Donc énormément de transport de marchandises. On mange à peu près, en Suisse, on a doublé la consommation de viande entre 1950 et 1987. Il y a une légère baisse depuis, en France aussi, il y a une stagnation. Mais la viande est, la consommation de viande est redoutable pour la planète. J'étais, il y a une année et demie, deux ans, au Brésil, dans ce qu'on appelle le Cerrado. C'est les premières marches qui conduisent à l'Amazonie. Et c'était des régions très boisées. On ne voit plus que quelques bouquets d'arbres. Et pour le reste, on voit d'immenses plaines, et à cette époque, ils venaient de faire la récolte, vide, des plaines de soja. Et tout est consacré dans d'énormes surfaces à la culture du soja. Avec aussi, j'ai vu des avions qui répandent les toxiques, les insecticides, toute la chimie qu'il faut pour faire pousser ce soja. Et puis, il y avait quelques troupeaux aussi. Donc, toute cette région, qui est très très vaste, est consacrée à la production de viande. Une partie est consommée sur place, ce qui est un problème aussi, parce que ce que j'ai observé au Brésil depuis une quinzaine d'années, en tout cas à peu près, c'est l'explosion de l'obésité. C'est extraordinaire de voir ce peuple qui était mince, une partie même souffrait de la faim. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'obèses. Et dans les bus ou les trains de banlieue, vous avez des icônes pour des places réservées. Donc, places réservées, par exemple, aux personnes handicapées, aux mamans qui ont un petit enfant, aux personnes enceintes, etc. Et puis, une icône pour les obèses. Place réservée pour les obèses. Et c'est toute l'Amérique latine, hein, c'est pas seulement le Brésil, ça a commencé il y a longtemps déjà aux États-Unis, au Canada, mais maintenant ça s'est répandu. Donc ce qu'on appelle la transition alimentaire, cette consommation de protéines carnées, de viande, a aussi de graves répercussions sur la santé. Ensuite, la sécheresse, ça a créé une sécheresse dans le sud. Quand j'étais là-bas, après je suis allé à São Paulo, il n'y a plus d'eau robinet pendant des jours et des jours. Parce que l'humidité qui vient de l'Amazonie, du Cerrado, cette humidité disparaît à cause de la coupe des forêts et des arbres. Ce qui fait qu'il y a des périodes de sécheresse. Et souvent, les périodes de sécheresse correspondent à des inondations aussi, à certains moments. Donc, c'est un dérèglement. Et puis, Vous le savez bien, les appareils ménagers se sont multipliés. À l'époque, il n'y avait pas de téléviseur. Maintenant, il y en a un peu partout. Les ordinateurs, etc. Les voitures qui se sont multipliées. Quand j'étais petit, je connaissais toutes les voitures du village et leurs propriétaires. Maintenant, ça devient très difficile. Il y a aussi beaucoup plus de voyages d'agrément. Les vacances d'hiver sont devenues presque une obligation. On se lance dans des croisières sur des bateaux énormes. Donc, on a beaucoup, beaucoup augmenté la consommation. Il y a des études qui mettent en France la consommation générale a triplé entre 1960 et 2007. Et ce modèle de consommation s'est répandu sur à peu près toute la planète. Parce que, par exemple, la classe dite moyenne de Chine, c'est des millions et des millions de personnes qui se sont mises aussi à consommer. Pareil pour l'Inde. Ce qui fait que la planète doit subir beaucoup plus de consommation. Et cependant, malgré cela, la misère ne disparaît pas. Dans mon travail de journaliste, j'ai vu trop de mamans porter jusqu'à un centre de nutrition des enfants squelettiques et on choisissait ceux qui allaient pouvoir survivre et ceux pour lesquels on ne pouvait plus rien faire. J'ai vu des enfants, des adultes aussi, incapables de se mettre debout. On apportait des sacs de maïs dans une région du Mozambique. Les gens ne pouvaient plus se mettre debout. Ils se traînaient jusqu'au sac de maïs pour recevoir quelque chose. Et il y en a, j'ai vu des enfants qui ramassaient grain après grain, les grains qui étaient tombés par terre. Donc, la misère n'a pas disparu. On annonce maintenant, c'est les Nations Unies qui lancent un appel parce qu'il y a une famine dans plusieurs pays d'Afrique. On parle de 20 millions de personnes menacées. Au Soudan, au Nigeria, en Somalie, au Yémen, il y a une sécheresse, mais il y a surtout, et c'est souvent le cas, des conflits qui empêchent de cultiver, qui empêchent la nourriture de transiter d'un lieu à l'autre. Sur le plan du logement, j'ai aussi visité beaucoup de bidonvilles, que ce soit au Brésil, en Inde, aux Philippines, enfin un peu partout. Et les conditions de vie sont très difficiles. La semaine prochaine, je vais aller d'ailleurs dans une favela du Brésil, où j'ai beaucoup d'amis, où je vais assez souvent. Et puis, misère aussi à Genève. C'est pas, il y a une multiplication des ce qu'on appelle des soupes populaires, le carré pour ceux qui connaissent. Il y a aussi bien des gens qui ne peuvent pas se nourrir et c'est la vie n'est pas facile pour tous non chez nous. Alors les conséquences de cette surconsommation. Alors, je vais juste vous donner un aperçu. Je vous ai dit que je n'étais pas un scientifique, mais il y a un certain nombre de données. L'humanité utilise les ressources de plus d'une planète. C'est-à-dire, bon, selon les sources, entre une planète 3,3 ou une planète 1,6. C'est-à-dire que nous vivons à crédit au détriment des futures générations. Et chaque année, il y a des gens qui calculent la date où on a épuisé les ressources de la planète pour l'année en cours. Cette date ne fait que reculer. L'année passée, c'était le 8 août. À partir du 8 août, on vivait à crédit. On utilisait plus de ressources que ce que la planète pouvait fournir en se ressourçant, justement, en pouvant continuer. Alors, c'est des calculs, d'énormes calculs, bien sûr, ce n'est pas un absolu, mais c'est une réalité malgré tout. Et déjà en Suisse, on utilise trois planètes, grosso modo, les ressources de trois planètes. Et déjà en 1960, on utilisait sans doute plus les ressources de plus d'une planète. Heureusement, il y a des peuples où on utilise moins. Moins d'une planète, par exemple l'Inde ou l'Éthiopie, où l'utilisation est plus faible. Alors, une partie de ces ressources viennent de notre production chez nous, et puis une partie importante de nos importations. Vous savez qu'il y a énormément de pollution en Chine, et on peut dire que les Chinois respirent mal pour nous. Donc il y a un dérèglement climatique, un réchauffement, l'accroissement d'événements violents, tempêtes, inondations, sécheresses, incendies, la fonte des glaces, j'en ai parlé, nos glaciers, mais surtout des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Tout cela crée une hausse du niveau des océans. La fonte du permafrost, c'est-à-dire de zones qui sont perpétuellement gelées, qui dégèlent maintenant, ce qui libère les rochers, c'est le ciment en quelque sorte, le permafrost, et une fois qu'il a fondu, ça libère des rochers. En Russie, en Sibérie, cela libère aussi des bacilles de l'anthrax en particulier. Ces bacilles enfermées dans la glace sont libérées, et on observe maintenant la mort de rennes, de nombreux rennes, et aussi d'enfants, et des maladies. L'acidification des océans, qui deviennent une sorte de soupe de plastique, parce qu'il y a de micro-éléments de plastique dans nos océans, et qui sont avalés par les poissons, puis ensuite nous on mange les poissons, donc on mange du plastique. Et puis beaucoup de pollution. Il y a des insecticides tueurs d'abeilles, vous en avez entendu parler, et des scientifiques ont établi un lien entre les polluants et l'augmentation de troubles observés chez les enfants, autisme, déficit d'attention, hyperactivité, déficience intellectuelle. Là, j'ai un des articles sur ce sujet, c'est paru dans Le Monde il y a quelques jours, les perturbateurs endocriniens, une menace pour le développement du cerveau. Donc c'est une menace très sérieuse. Et sur un organe essentiel, le cerveau. Or, c'était juste un aperçu parce qu'il y a une énorme littérature sur tous ces sujets. Les scientifiques pourraient vous en parler pendant des jours et des jours et des jours sans épuiser le sujet. Mais je me suis plutôt attaché à voir quelle est l'origine de cette situation où nous nous trouvons actuellement au bord du gouffre. Alors, aussi, dans ce domaine-là, quelques mots sur ce que je crois avoir tout compris. Je n'ai pas tout compris, de loin, pas. Et chaque jour, je découvre un aspect. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent à cela. Cette situation plonge ses racines en profondeur dans nos esprits. La crise écologique est d'abord une crise spirituelle. Pour le pape François, lui, remonte au récit de la Genèse, qui témoigne d'une rupture de nos relations avec Dieu et la création. L'être humain a voulu échapper à son état de créature. Maintenant, il cite aussi des origines plus récentes. Il décrit ceci dans Laudato Si. Nous n'avons jamais autant maltraité notre maison commune, la planète, qu'en ces deux derniers siècles. Sommairement, ce que j'ai essayé de comprendre, la modernité, les lumières, marque le triomphe de la raison sur la foi. Et Dieu a été expulsé dans la transcendance, il n'a plus grand-chose à faire avec nous, quand il n'est pas nié. Alors, il peut y avoir d'autres aspects dans ces philosophies positives, contre l'absolutisme, par exemple. Mais dans ce domaine écologique, les êtres humains se voient désormais au-dessus de la nature et au centre de toute chose. C'est cette évolution dans la pensée depuis quelques siècles. Il y a un anthropocentrisme, l'être humain mis au centre de tout. Et il y a une phrase qu'on cite souvent de Descartes, les êtres humains doivent se rendre comme maîtres et possesseurs de la création. Et c'est bien ce qui s'est passé. La nature perd sa dimension enchantée, son mystère, et elle devient simplement un objet de connaissance. Alors, on a fait d'énormes progrès dans la connaissance de la nature, et une ressource au service de l'être humain. Le pape François encore dit ceci, on en vient facilement à l'idée d'une croissance infinie. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète qui conduit à la presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Donc on utilise les ressources de la planète au-delà de leurs limites. Et ces conceptions se sont accompagnées de la révolution industrielle. Le pape encore dit ceci, nous sommes les héritiers de deux siècles d'énormes vagues de changement. Il cite la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, l'électricité, l'automobile, l'avion, la chimie, la médecine, l'informatique, la robotique. Beaucoup, beaucoup de changements très rapides à l'échelle de l'humanité. Et le pape ajoute, il est juste de se réjouir face à ces progrès et de s'enthousiasmer devant les possibilités que nous ouvrent ces nouveautés. Alors ces nouveautés ne sont pas forcément négatives, loin de là, la cheminée en train, c'est plus facile que de venir en diligence ou à pied. Mais ces conquêtes, ajoute le pape, n'ont pas été accompagnées d'un développement de l'être humain en responsabilité, en conscience. Il y a un manque dans l'éthique, la culture et la spiritualité. L'homme est devenu trop puissant par rapport à sa conscience, à son intelligence, à ses réflexions. Et aujourd'hui, nous sommes dominés par la technoscience, qui, c'est toujours le pape François qui s'exprime, qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Donc on est réduit au fonctionnement de la technoscience. Ce réductionnisme, cette réduction, nous fait oublier d'autres dimensions de la personne humaine. Et la dégradation de l'environnement est un signe de cette réduction. On a oublié tout ce qui était la personne, sauf cette direction de la technoscience. Déjà en 1945, un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Bernanos, écrivait « La civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. » Voilà une origine de ce qui se passe aujourd'hui. Autre origine, nos désirs. L'être humain a des besoins essentiels. Nous avons tous des besoins essentiels. Manger, boire, dormir, avoir un toit, nous protéger du froid, de la chaleur. Ces besoins sont relativement limités. Et aujourd'hui, on pourrait, sans trop de peine, c'est ce que dit aussi ce livre « Trop riche, trop pauvre », les satisfaire pour tous. Ce n'est pas le cas, mais ce serait possible, ce ne serait pas du tout insurmontable d'arriver à assurer à tous ce minimum. Et « Trop riche, trop pauvre », ce livre montre justement les lacunes dans un certain nombre de domaines. On pourrait dire que l'humanité peut mieux faire et peut vraiment mieux faire. Et l'être humain a aussi, à côté de ses besoins essentiels, un désir de vie en plénitude. Un théologien qui s'appelle Maurice Zindel, quelques-uns le connaissent peut-être un petit peu, qui était de chez nous, qui est né à Neuchâtel et est mort à Ouchy, il est mort en 1975, disait ceci: il est dans la nature de l'homme de dépasser sa nature. Nous sommes les porteurs d'un infini. Et c'est bien, le christianisme voit bien cela. Nous sommes les porteurs d'un infini et notre espérance va à l'infini. Notre désir profond nous ouvre à ce qui nous dépasse, à l'amour, à la beauté, à la solidarité, à Dieu. Or, le système économique qui s'est mis en place, et technologique aussi, qui s'est imposé d'abord en Occident, mais avec la mondialisation maintenant, c'est sur l'ensemble de la planète. Ce système est marqué par la domination du marché et de la finance. Il implique une compétition féroce. Le mot d'ordre, et vous l'entendez très souvent à la radio, à la télévision, c'est être compétitif. Tout le monde doit être compétitif. Alors, cela a certains avantages. La concurrence favorise l'efficacité, les baisses de prix, mais des désavantages aussi, les délocalisations, le chômage, les bas salaires, le stress, le travail du dimanche, qu'on cherche à généraliser. Et ceux qui ont du travail s'épuisent au travail, le stress dont je parlais tout à l'heure, et puis d'autres n'ont pas de travail, c'est le chômage. Alors c'est un système efficace pour la production, moins pour le partage. Un auteur disait « Le capitalisme ne sait répondre à la pénurie que par l'excès. » Et on a un excès. C'est un système qui a justement besoin de la croissance. C'est un autre mot qu'on entend sans cesse, la croissance. Or, disait un économiste, qui croit à une croissance continue dans un monde limité est soit un fou, soit un économiste. Ce n'est pas possible, simplement. Le monde est limité, une croissance continue, on se heurte à un mur. Et ce système, pour sa croissance, s'acharne par la publicité, le marketing, à capter notre désir de plénitude, le transformer en envie qu'il fait passer pour des besoins. Ces envies sont toujours renouvelées. Dès qu'une envie est satisfaite, il y en a une autre qui se présente. C'est un processus addictif, comme une drogue. Ce système utilise aussi la rivalité mimétique. On veut avoir ce que l'autre possède, même s'il faut s'endetter pour ça, voiture, vacances, croisière, etc. Il s'agit aussi de se procurer de l'admiration, une reconnaissance sociale, de ne pas déchoir, d'être comme tout le monde. Et cette rivalité est favorisée par l'explosion des inégalités. Vous avez entendu des statistiques sur ces inégalités. Selon l'Oxfam, qui est une ONG britannique, 8 personnes dans le monde ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population du globe. Ces inégalités ont terriblement explosé, en particulier depuis 1980. C'est les années 80, la situation des pauvres a stagné et puis les riches, et surtout les très, très riches, ont vu leurs revenus s'envoler. Aux États-Unis, actuellement, les dirigeants d'entreprises ont en moyenne 200 fois le salaire médian des travailleurs de leur entreprise. Et hier, on a appris que le directeur général de l'UBS, chez nous, a gagné 600 000 francs de moins l'an passé qu'en 2015, le pauvre, mais c'est tout de même 13,7 millions de francs qu'il a gagné. Donc je ne sais pas combien de fois ça fait le salaire de ceux qui nettoient les bureaux de l'UBS, mais c'est considérable. Et la conséquence, c'est une distorsion de l'économie. On satisfait des besoins solvables, ceux des plus riches, et puis on laisse de côté les besoins qui ne sont pas solvables, qui sont de vrais besoins, nourriture, logement, etc., des plus pauvres ou des gens ordinaires. En profondeur, ce système s'appuie sur nos peurs. Peur ancestrale de manquer, longtemps on a eu peur de manquer. Peur liée aussi à notre fragilité mentale et physique. Peur de la mort. On cherche à anesthésier ces peurs par une fuite dans la consommation et dans l'accumulation des biens matériels. Et dans nos sociétés actuelles, qui sont, disons, matérialistes, individualistes, les liens familiaux et sociaux se délitent. Et de cette façon, chacun est une proie pour le système économique. Je dis souvent, nous sommes laissés intoxiquer par ce système, sans trop nous en rendre compte. Depuis, disons, les années 60, etc., c'est entré en nous comme un poison. Ce besoin de consommer, ce besoin d'avoir plus, toujours plus, c'est une intoxication. Alors, pour les plus pauvres, non. Les plus pauvres, ils sont d'autant plus malheureux qu'autour d'eux, il y a abondance et surabondance. Voilà, alors dernière partie de cet exposé, c'est que faire face à tout cela ou comment être face à tout cela. Il y a trois réponses qu'on observe. Il y a le déni, le découragement et l'engagement. Le déni, exemple fameux, c'est celui de M. Trump et de ses ministres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est dire non, c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement, et puis si jamais il y a un réchauffement, c'est pas la faute des êtres humains, c'est la nature qui se réchauffe. C'est aussi un déni intéressé, par exemple, des lobbies pétroliers. Ce déni vise à éviter de changer de mode de vie. Et on se dit, on trouvera des solutions techniques, scientifiques, pour que ce réchauffement n'aille pas trop loin. Il y a un auteur canadien, Naomi Klein, qui a écrit un très gros livre dans lequel elle parle de la géo-ingénierie. Le plan B, c'est-à-dire que si ça devient trop chaud, eh bien, on va empêcher une partie des rayons solaires d'atteindre la Terre en pulvérisant des aérosols à base de soufre dans la stratosphère. C'est ce qui s'est passé lors d'une éruption volcanique, le Pinatubo, et qui a effectivement eu comme conséquence une baisse de la température mondiale. Mais évidemment, ce genre d'opération ne va pas sans d'abord d'énormes frais, puis ensuite des inconvénients pour toute une partie de la population. Autre moyen, c'est oublier. Oublier parce que, et ça nous arrive beaucoup, la menace nous fait du mal, c'est désagréable, on se sent même parfois une culpabilité, et on se dit, il vaut mieux laisser ça pour les suivants. Ou, autre réaction, le découragement. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire, nous sommes impuissants. Nous sommes trop petits, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose. Et la dernière possibilité, je pense que c'est la seule qui ouvre une voie d'espérance, c'est de faire face à la réalité. Et d'entrer, cas en cas, comme on peut, dans ce qu'on appelle une transition, ce que le pape appelle une conversion écologique. Je vous disais tout à l'heure que l'origine lointaine ou relativement proche de ce qui se passe actuellement, que ce soit le climat, la hausse du niveau des mers, etc., l'origine est spirituelle. Et la réponse doit être, pas seulement, mais aussi spirituelle. Alors c'est un chemin ardu, c'est difficile. Il s'agit d'une conversion en profondeur, durable, qui suppose un travail sur nous-mêmes pour nous désintoxiquer, pour fonder nos convictions. Et cela entraîne une nouvelle vision de notre place dans la création. Et aussi, ça entraîne déjà beaucoup de recherches sur le plan théologique. On a une nouvelle vision de la théologie de la création. On a une nouvelle vision de la place de l'être humain sur la terre. Alors, il y a un livre qui est disponible ici, deux livres de Michel-Maxime Egger, qui est un ami avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre des campagnes de Carême. On est entré dans le Carême maintenant. Ce livre s'appelle « La Terre comme soi-même, repères pour une éco-spiritualité », avec une préface de Pierre Rabhi, qui est aussi très connu. Et il a écrit un autre livre, qui est aussi ici à disposition, sur l'éco-psychologie, justement pour une réflexion sur cette transition, cette conversion, qui n'est pas facile, mais qui nous aide à changer, à créer en nous-mêmes les conditions d'un changement. Alors, quelques étapes de ce changement. La première, c'est s'enraciner dans la gratitude. Le pape François dit, une conversion écologique implique gratitude et gratuité. Il s'agit de reconnaître le monde, la création, comme un don reçu de l'amour du Père, et l'accueillir avec respect, le partager et le transmettre aux prochaines générations. Ça implique une certaine humilité. L'être humain supérieur, disent les catéchismes de notre enfance. J'ai trouvé dans un catéchisme de 1950 cette phrase « Grâce à ton intelligence, tu es supérieur à tous les animaux ». Alors, sans nier notre différence, il s'agit de reconnaître que nous sommes membres de la création, que nous faisons partie de la création. Le pape parle d'une belle communion universelle. Et abîmer la terre, abîmer l'environnement, c'est nous abîmer nous-mêmes, c'est nous faire du mal à nous-mêmes. On est impliqué là-dedans, on est partie de cette création qu'on abîme. On ajoute que l'extinction d'une espèce, et je n'ai pas encore parlé de la biodiversité, mais on est dans une période où il y a énormément d'espèces qui disparaissent. L'extinction de beaucoup de plantes, d'insectes, d'animaux, etc., c'est immense et c'est extrêmement grave. Et l'extinction d'une espèce est une sorte de mutilation pour nous. Ceux qui connaissent bien ça, qui comprennent mieux ça, ce sont les communautés aborigènes. J'ai un ami jésuite qui se trouve en Amazonie brésilienne. Depuis quelques années, il parcourt l'Amazonie en bateau parce qu'il n'y a pas de route et il va rencontrer les communautés. Et on lui a demandé de réagir à ces questions-là. Et il nous a fait tout un texte. Et en particulier, je vous cite un exemple, quand les indigènes doivent couper un arbre pour construire leur maison, ils commencent par converser avec cet arbre. Alors, ce jésuite, qui s'appelle Paco, a interrogé un de ces indigènes sur cette conversation. Qu'est-ce que vous dites à cet arbre? Alors, il a répondu ceci, je lui demande pardon. Et l'arbre m'a dit, tu peux me couper parce que ma mission est de vous servir et c'est ma joie. Mais ne coupe pas plus que nécessaire. Sinon, il n'y aura plus d'arbres et nous ne pourrons plus continuer notre mission de vous aider à bien vivre. Donc une relation avec la nature, avec les arbres, avec les plantes et le respect. Où nous couperions des arbres pour les vendre, et c'est malheureusement ce qui se fait beaucoup, eux coupent ce dont ils ont besoin et pas plus, parce qu'ils savent que c'est de cette manière que la nature pourra continuer à leur donner ce dont ils ont besoin. Et je pense que nous pouvons apprendre de ces peuples quelle relation entretenir avec la création. Je recite le pape François, mais qui lui-même cite les évêques du Brésil, « En plus de manifester Dieu, la nature est un lieu de sa présence. » Ensuite, je vais parler d'une sobriété libératrice. Le pape lie l'approche écologique et l'approche sociale dans son encyclique. Il dit qu'il s'agit d'écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Dans le livre « Trop riche, trop pauvre », j'ai écrit ceci, ce qui a attiré l'attention. « Mais si la pauvreté n'était pas le problème, mais la solution. » J'ai écrit aussi « Si vous saviez la joie des pauvres ». Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, je crois, c'est que quelqu'un s'est souvenu de ce texte qui est paru déjà en 2002. Et il s'agit de la pauvreté, non pas de la misère. La misère, il faut la combattre. Et la misère à Genève ou la misère dans le monde, il s'agit de la combattre. Mais d'une pauvreté digne, ce qu'on appelle la pauvreté évangélique. Un mode de vie frugal, convivial, ce que d'autres ont appelé la sobriété heureuse. Il ne s'agit pas de se morfondre, il s'agit de vivre d'une manière plus communautaire, moins individualiste, plus conviviale, et c'est de là que vient la joie. Il ne s'agit pas non plus des pauvres avec une face de riche, avec un visage de riche qui cherche à obtenir toujours plus, être comme les autres. Je vais retrouver la semaine prochaine Ricarda. Elle a peut-être 85 ans ou plus. Elle ne doit pas savoir elle-même. Et c'est une toute petite femme de rien du tout, noire, qui vit dans la favela. Et elle dit ceci, « Nous sommes pauvres. Nous aimons notre façon d'être pauvres et nous voulons continuer d'être pauvres dans l'unité. » Un béninois qui a vécu assez longtemps à Genève, il était au BIT, a écrit un autre livre il y a longtemps, et il écrivait ceci, « La misère nous poursuit et nous menace parce que nous n'avons pas choisi la pauvreté. » Et un autre auteur, chez son livre par ici, c'est lui, qui est un Iranien, Majid Ghanema, son livre s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté », et il écrit ceci dans ce livre, « La pauvreté conviviale a permis pendant des millénaires à l'immense majorité des êtres humains d'exorciser la misère. » Donc il s'agit de ce type de pauvreté qui permet à tous de vivre correctement, de satisfaire ses besoins essentiels, mais comme le disait Gandhi, non pas les envies de tout le monde, les besoins essentiels. Et le pape François, dans son encyclique, dit ceci, « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété. La sobriété est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans la musique, l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Il s'agit donc d'une certaine manière de reconquérir notre liberté face aux addictions de la consommation. » Il s'agit aussi de reconnaître la valeur des pauvres qui savent vivre avec peu, et comme les peuples indigènes, ils peuvent être nos maîtres sur ce chemin de la conversion écologique. Et vivre avec peu doit aussi nous donner du temps pour la méditation, la contemplation, l'émerveillement, c'est un des mots qui est au tableau. Pour le pape François, il s'agit aussi de ralentir la marche pour recueillir les avancées positives et durables qu'on a faites et récupérer les valeurs détruites par une frénésie mégalomane. Voilà sur le fond, sur l'essentiel. Maintenant, bien sûr, tout cela peut se traduire dans la réalité quotidienne, par une action citoyenne. Le pape François disait au mouvement populaire qui était en Bolivie à ce moment-là, « L'avenir de l'humanité n'est pas uniquement entre les mains des grands dirigeants, des grandes puissances et des élites, il est fondamentalement entre les mains des peuples. » Il ajoutait « Vous les plus humbles, les exploités, les pauvres et les exclus, vous pouvez et vous faites beaucoup. » Et Bernanos, j'ai cité tout à l'heure, a écrit en 1940 « Je dis que les pauvres sauveront le monde. » Bonne nouvelle. J'ai aussi, pour terminer, à vous annoncer une bonne nouvelle. Il se fait beaucoup. Certains d'entre vous, j'imagine, ont vu le film « Demain » qui recense sur la planète ce qui se fait de positif dans ce sens de la protection de la planète, de la vie sur la planète. Et on est en préparation maintenant un film qui s'appellera « Demain, Genève », parce qu'il se fait aussi beaucoup ici, à Genève et en Suisse. Alors, il y a une action politique. Vous vous souvenez peut-être, c'est pas bien vieux, que nous avons voté le 25 septembre sur une initiative qui s'appelait « Économie verte ». Alors le Conseil fédéral disait « Oh, ça va trop loin, en trop peu de temps ». Moi, je pense que c'est le contraire. Ça va pas assez loin et trop lentement. Alors, nous avons perdu cette consultation. Il y a eu 800 000 oui à cette initiative et 1,4 million de non. Mais Genève a dit oui, à une faible majorité, mais Genève a dit oui, c'est le seul canton qui a dit oui. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que ça donne l'occasion d'un débat, d'une réflexion. Et c'est un pas pour arriver peut-être une fois, et aussi tôt que possible, à un changement dans les mentalités. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. J'en cite une, la Chambre de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle APRÈS. Elle a été fondée en 2004 et elle a 278 membres des associations, des coopératives, des entreprises, etc., qui échappent à cette compétition, au profit, etc. Il y a aussi ceci. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une monnaie, il s'agit d'argent. C'est le léman, c'est une monnaie alternative. Si vous voulez, je peux vous en faire passer des exemplaires ici, pour que vous les touchiez. Vous me les rendez après parce que c'est de l'argent véritable, hein, pardon. Donc c'est une monnaie qui échappe au circuit financier, avec laquelle on ne peut pas spéculer, mais il y a peut-être 350, je crois maintenant, endroits où on peut payer avec cette monnaie. C'est une monnaie complémentaire, on ne peut pas se passer du franc, elle est d'ailleurs adossée au franc suisse, mais c'est une monnaie qui crée des liens et ceux qui l'acceptent signent une charte sociale et écologique. Et puis, j'habite Meyrin, il y a en construction actuellement un écoquartier. Et dans cet écoquartier se met en route un supermarché paysan qui permettra de rapprocher les producteurs et les consommateurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, notamment un répertoire sur Internet pour réparer, pour éviter de jeter ce qui est abîmé, cassé. Ça s'appelle gerepare.ch et c'est parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, que quand on a un appareil, quel qu'il soit, pour fabriquer cet appareil, il a fallu énormément d'énergie et de matières premières. On ne paye pas tout ça. On ne paye pas parce que on n'inclut pas dans le prix les dégâts à l'environnement. On n'inclut pas le transport, on n'inclut pas beaucoup de facteurs. Et dans un appareil, il y a énormément de pollution grise qu'on laisse de côté. Et personne ne la paye, sauf la planète. Puis vous voyez ce qu'on fait avec soi. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses avec soi. Alors, maintenant, très rapidement, Michel Heger a créé, dans le cadre de Pain pour le prochain, une unité de transition intérieure où il cherche justement à former, à rendre attentif, à rendre conscient les gens, la population, de cette nécessité de changer, de se transformer soi-même pour transformer le monde par la méditation, la prière, la connaissance, etc. Et il a dans son groupe des universitaires aussi qui réfléchissent avec lui. Finalement, est-ce que nous avons le temps d'éviter des effondrements catastrophiques? Ce n'est pas sûr. Ça va très vite. Mais de toute manière, il faut préparer la suite, préparer une autre société, sans nous faire trop d'illusions. Il y a un théologien brésilien qui disait « Ce n'est pas nous qui allons détruire le système économique, capitaliste, mais c'est la planète. » J'ai, quant à moi, vu plusieurs révolutions au Nicaragua, au Mozambique, Madagascar, etc. Et les espoirs qu'on mettait dans ces révolutions, tous étaient déçus. Alors, on ne va pas imaginer une société parfaite, mais tout de même une société un peu moins inégalitaire, un peu moins consommatrice, et pour prendre la suite de ce qui se passe maintenant, de créer quelque chose d'autre. Michel Heger parle du méditant militant. Le méditant militant, c'est celui qui a une conviction fondée spirituellement, qui a une mystique, qui l'anime et qui milite. Alors, en sachant que seul ou même en petit groupe, on ne peut pas tout résoudre par nous-mêmes. Il s'agit de faire chacun notre part, avec humilité, avec patience, sans violence, sans compétition, en se détachant des fruits de l'action, c'est ce que dit Michel Heger. Et je termine par une phrase qui m'a touché, qui me prononce. Il s'agit de passer de l'efficacité à la fécondité. C'est ce que je nous souhaite à tous. Merci de votre attention.
C'est vrai que souvent on est guidé par la puissance, on dit que c'est d'autres qui doivent s'y mettre, il faut que les politiques s'y mettent. Mais voilà, je crois que si nous tous déjà ici, nous prenons conscience qu'il y a des choses à faire avec soi, qu'on peut déjà continuer ce qui se fait peut-être déjà, alors on a besoin tous de s'encourager, je crois. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, soit les noter, soit les dire, et puis on se passe le micro. Moi, je me demandais s'il y avait un catalogue qui dit tout ce qui se passe à Genève.
Je ne crois pas qu'il y ait un catalogue, mais il y a un groupe qui s'appelle Alternativa et qui, chaque année maintenant, je pense, rassemble beaucoup d'associations, de groupes qui agissent dans ce domaine-là. Alors cette année, j'ai un peu participé, il y avait des exposés, des conférences, notamment des gens qui sont engagés dans la réparation, ce qui est très important. Se sont présentés, on expliquait ce qu'ils faisaient, dans quel domaine ils réparaient. Et puis, il y avait une exposition sur la plaine de Plainpalais avec, je n'ai pas compté, un certain nombre de stands très différents. Il y avait le stand de Léman, par exemple, qui avait un bureau de change, parce qu'ils ont des bureaux de change pour échanger les Léman contre les francs suisses. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives qui étaient prises. Je crois qu'il y a une revue qui est en train de préparer un catalogue. Nous-mêmes, à la Côte-Mec, on va donner sans doute quelques exemples. Mais heureusement, c'est la bonne nouvelle qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, notamment prises par des jeunes, mais pas seulement. Et vraiment, ça bouge beaucoup en Suisse, mais pas seulement qu'en Suisse. En Suisse, en France aussi, cette monnaie alternative, le léman, il y en a une trentaine de monnaies alternatives locales en France. C'est tout un mouvement, mais aux États-Unis aussi et un peu partout, qui se développe, qui n'a pas encore une majorité, mais c'est important et ça donne un espoir. Alors oui, j'imagine que le film de Ma Genève, il vient d'obtenir les moyens nécessaires pour être tourné. C'est 75 000 francs à peu près qu'ils ont récolté et qui va aussi donner quelques exemples de ce qui se passe ici, chez nous. Et c'est précieux. La Chambre d'économie sociale et solidaire, elle rassemble beaucoup de groupes. Alors là, vous pouvez vous renseigner si vous voulez auprès de cette chambre qui est logée aussi à la Maison des Associations, donc à Genève. Et il y a 250 groupes à peu près de toutes sortes de production, d'échanges, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, on peut savoir certaines des choses qui se passent à Genève. Dans le domaine de la production, sans qu'elle soit dirigée vers le profit, et aussi avec une visée écologique et sociale. Vous pouvez être en désaccord aussi, hein, c'est pas.
Merci, ce n'est pas une question, c'est juste. Pas dire une anecdote, mais vous avez dit que nous avions été intoxiqués inconsciemment par tout ce qui se passait pendant les années précédentes. Alors, dans les années 80, on avait rencontré un monsieur qui était directeur de grande culture de caoutchouc au Kinshasa et qui disait on prospère, il faut toujours plus, exactement ce que vous avez dit. Et entre autres, il nous disait, on a fait venir des Chinois pour apprendre à ces gens à avoir trois fois par année une culture de riz pour s'enrichir. Ils sont restés 3 ans, les Chinois, et 2-3 ans après, quand ils sont revenus pour voir le résultat, eh bien, c'était comme avant, ils cultivaient 1 ou 2 cultures par année. Et quand on leur a demandé pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué ce qu'on vous a appris, ils ont simplement répondu qu'on n'en avait pas besoin. Et nous, on était d'accord avec ce gars qui nous racontait cette histoire. Donc on était vraiment empoisonnés.
Bon, cette histoire est emblématique hein, de beaucoup d'histoires de ce type-là. On raconte aussi des pêcheurs auxquels on conseille d'aller d'acheter les plus gros bateaux, d'aller prendre plus de poissons, puis qui disent mais pourquoi? Puis vous aurez toujours plus de poissons, vous serez riche et tout ça, puis vous pourrez vous reposer. Et puis ces pêcheurs disent mais maintenant qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me repose, je suis tranquille. Donc c'est très souvent, c'est vrai que dans la culture occidentale, il faut toujours plus. Et puis on a été intoxiqué, c'est vrai, toujours plus, sans prendre en compte les limites de la planète. Et c'est extrêmement grave. Et on ne peut pas, on ne peut plus continuer. C'est physiquement impossible.
Voilà, en tout cas, merci pour votre conférence et ce débat, en effet, sur l'inégalité nord-sud, quoiqu'on voit bien que voilà, ça devient difficile puisque ça se mélange. J'avais une question. Vous avez dit à un moment donné, les Chinois respirent mal pour nous. Est-ce que vous pouviez expliquer, je n'ai pas bien compris pourquoi vous dites ça. Et puis, moi, ce qui m'inquiète un peu en voyageant aussi dans plusieurs pays d'Afrique, c'est le pouvoir des multinationales. Vous verrez un peu abordé, mais en même temps, on se rend compte aussi, puis je pense à une grande multinationale qui est ici au bord du Léman, que même les gouvernements étatiques, nos gouvernements à nous, deviennent impuissants par rapport à ces multinationales. Et ces multinationales, si on leur fait des reproches, ils disent toujours qu'on va délocaliser. Donc, est-ce que vous pouviez, peut-être, même de votre expérience de journaliste, en parler? Merci.
Merci. Les multinationales, effectivement, ont un pouvoir considérable, et souvent plus grand que le pouvoir des États. Et c'est nous qui leur donnons ce pouvoir, en fait. C'est nous, en achetant les produits des multinationales et en nous soumettant à la publicité des multinationales. Et dans l'association, enfin le groupe auquel j'appartiens au Brésil, on a mené depuis très longtemps, c'est un prêtre qui l'a fondé, autour duquel ça s'est fondé, il s'appelle Freddy Kuntz, et il avait lancé il y a très très longtemps toute une campagne contre Coca-Cola. Et c'était un acte de résistance par rapport à une multinationale. Et c'est un exemple, mais d'autant plus probant que Coca-Cola contribue passablement maintenant, et dans beaucoup de régions, à l'obésité. Et aussi prélève de l'eau qui est normalement à disposition de tout le monde. Il faut 2-3 litres d'eau, selon les cas, pour créer un litre de Coca-Cola. Et il y a eu des manifestations en Inde, en particulier, contre Coca-Cola, parce que les paysans n'avaient plus d'eau. Leur puits était à sec parce qu'il y avait une usine de Coca-Cola dans la région. Alors, c'est un des exemples. Et effectivement, c'est dangereux de se laisser phagocyter par les multinationales, de croire... Autre exemple, vous parliez de Nestlé tout de suite, et Nestlé aussi prélève de l'eau pour la vendre. Et un peu partout, il y a des résistances. Ça s'appelle Pure Life, c'est un peu dans beaucoup de pays du monde. Ils mettent de l'eau en bouteille. Alors, au point de vue écologique, c'est évidemment pas très bon parce que les bouteilles, c'est du plastique qui vient du pétrole, effectivement. Et ensuite, il y a le transport, et il y a la vente et tout ça. Et pour les gens, c'est trop cher. Donc, c'est tout un système qui est répandu sur la Terre entière maintenant. Il y a un film où on disait, le titre c'était « We feed the world », nous nourrissons le monde. Et c'était justement ces multinationales qui prétendaient nourrir le monde. Alors que dans beaucoup de pays, en général, c'est les petits paysans qui nourrissent le monde. C'est eux qui donnent, qui produisent les, ce qu'on appelle les cultures vivrières, et non pas le soja, et non pas ces immenses cultures qui utilisent beaucoup de pesticides et qui ont, ensuite empêchent les petits paysans d'accéder à la terre. Alors, maintenant, quand on se disait que nous, c'est à cause de nous que les Chinois respirent mal, c'est-à-dire que les Chinois nous s'envoient énormément de marchandises. Et nous les consommons, mais ces marchandises sont produites aussi avec de la pollution. Et la pollution en Chine, à Pékin en particulier, mais ailleurs, est extrêmement grave. Il y a des périodes où tout le monde doit mettre un masque. Et il y a des périodes où on dit aux gens, aux habitants, ne sortez pas de chez vous. C'est trop dangereux, vous respirez trop de polluants en sortant, en marchant, etc. Pareil pour New Delhi en Inde et d'autres villes. Et il y a ces polluants qui sont plus ou moins visibles, puis il y a tout ce qui est invisible aussi. Dans le processus de fabrication de beaucoup d'objets que nous utilisons, il y a des polluants dont je parlais tout à l'heure en disant qu'ils peuvent attaquer le cerveau, et en particulier le cerveau des enfants. Donc, c'est quelque chose de très grave. On a beaucoup de peine à réagir parce qu'il y a les lobbies qui n'acceptent pas de limitations. Vous avez entendu parler du bisphénol A qu'on a réussi à interdire, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y a à Bruxelles toute une guerre. Les écologistes et les gens sensés voudraient interdire un certain nombre de produits, et puis de l'autre côté, il y a les lobbies qui veulent l'empêcher. C'est énorme comme guerre. Oui.
Qui est chez nous, au pied du Jura.
C'est ça.
C'est un paysan qui sème des graines anciennes et qui a beaucoup de succès.
Il y a alors tout un mouvement qu'on appelle l'agroécologie. Beaucoup d'expériences. Vous savez déjà que le bio, la consommation du bio augmente très rapidement. En France, en Suisse, etc. Et il y a beaucoup d'expériences dans ce domaine-là pour une agriculture qui utilise moins de pétrole. Moins de pétrole sous forme d'engrais chimiques, sous forme de pesticides, qui respecte mieux la terre, parce que ces produits qui viennent du pétrole détruisent les sols. Et on cherche à reconstituer les sols. Et Pierre Rabhi, en particulier, est un des pionniers dans ce domaine-là. Mais il y a énormément de choses qui se font dans la réalité. Ce n'est pas seulement des expériences, c'est aussi de la production. Et c'est très, très important, cela. Parce que, en fait, quand nous mangeons en grande partie du pétrole. Parce qu'il faut du pétrole pour les engrais, il faut du pétrole pour les pesticides, il faut du pétrole pour le tracteur, il faut du pétrole pour la récolte, pour le transport, etc. Une grande partie de la valeur de ce que nous mangeons vient du pétrole. Alors, diminuer cette dépendance et cette pollution, c'est important.
Et